On dit que c'est une révolution d'amour, de paix, surtout de paix.
Je pense que le grand succès, c'est la révolution qui s'est passée dans la mentalité du peuple arménien. Il avait perdu complètement son espoir. Il a retrouvé son espoir.
Now people are just waiting.
Actuellement, la population attend de voir ce que Pachinian va faire. Il y a de grandes attentes, ce qui n'est jamais très bon. Nous verrons bien, en général, après les révolutions, les pays ont quelques problèmes.
Ballons et drapeaux tricolores, danses, chants et bruits de casseroles, c'est dans un climat de fête que l'Arménie a fait sa révolution. Une révolution de velours non violente qui a fait tomber Serge Sarkissian, président pendant 10 ans, et qui pensait se maintenir au pouvoir au poste de Premier ministre. Mais c'était compté sans Nicole Pachinian, députée d'un petit parti d'opposition. Cet ancien journaliste de 42 ans s'est attiré quelques moqueries quand il a entamé sa marche le 31 mars. Mais au fil de ses rencontres à travers le pays, ce brillant orateur a redonné espoir aux habitants et en promettant de déraciner la corruption et de réduire les inégalités, il a galvanisé les foules. Les étudiants d'abord, puis des Arméniens de tous âges et de tous horizons l'ont suivi, se lançant dans des manifestations pacifiques et des actes de désobéissance civile. Le 23 avril, moins d'une semaine après son élection au poste de Premier ministre, Serge Sarkissian démissionne. « Je me suis trompé », reconnaît l'ancien chef de l'État. Mais le parti républicain au pouvoir résiste et le 1er mai, les députés refusent d'investir Nicole Pachinian comme chef du gouvernement. L'opposant devenu héros national appelle alors ses partisans à bloquer le pays et face à cette grève générale aux allures de festival de rue, le 8 mai, le Parlement s'incline. Pachinian, devenu Premier ministre, saura-t-il répondre aux attentes immenses qu'il a suscitées ? Pourra-t-il, comme il l'a promis, rendre le pouvoir au peuple et faire régner la loi et l'ordre ? Arménie, les défis d'une révolution pacifique, c'est un magazine signé Marie-Pierre Véraud. Bonjour Armand Sarian.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Entre 1993 et 1996, vous avez conseillé Levonter Petrosyan, le premier président de l'Arménie indépendante. Vous êtes aujourd'hui directeur associé dans un cabinet d'avocats d'affaires à Paris. Nous allons parler avec vous de l'avenir de l'Arménie, juste après avoir écouté le reportage de Marie-Pierre Véraud sur la révolution de velours. Marie-Pierre, vous étiez dans la capitale arménienne, Yerevan, le 8 mai dernier. C'était le jour où Nicole Pachinian est passé du statut d'opposant à celui de chef du gouvernement.
Oui, sur la place de la République en plein cœur de la capitale, Yerevan, une place devenue le haut lieu de la contestation. C'est là que par dizaines de milliers, chaque jour, pendant les 3 semaines de cette révolution de velours, les Arméniens se sont rassemblés à l'appel de Nicole Pachinian pour dire leur ras-le-bol du parti républicain tout-puissant au pouvoir, de sa corruption, de son emprise sur la vie de chacun, de l'atmosphère de peur qu'il insufflait, et dire aussi leur envie de changement. Une foule désormais pleine d'espoir, joyeuse, vous l'avez dit, et ce 8 mai encore plus, car elle est venue célébrer sa victoire. L'issue d'une vote, cette fois, ne fait plus de doute. Une foule vêtue de blanc, comme le souhaitait Nicole Pachinian, le blanc symbole de paix et de pureté, de la lutte contre la corruption qui l'entend mener. Une foule qui a du mal à contenir son impatience, les yeux rivés sur les écrans géants qui retransmettent en direct la cérémonie d'investiture au Parlement.
Et quand le résultat du vote s'affiche sur les écrans, une immense clameur s'élève de la place de la République.
On s'embrasse, on s'étreint, on pleure de joie. Des colombes s'envolent, des ballons aussi, les drapeaux sont brandis. Le peuple arménien célèbre sa victoire comme si l'Arménie sortait de la guerre.
Azad Ankar Hayastan.
Arménie libre et indépendante.
Ambos Hayazga Verchapes Kapri Ila.
Enfin
Haikakan Zevon.
Tout le peuple arménien pourra vivre joyeux.
Et la fête prend des airs de kermesse. Des groupes folkloriques venus de différentes provinces sillonnent la foule. On se prend en photo sur cette place historique, en ce jour désormais historique.
Vous êtes venus en famille ?
Ayo, oui.
Et pourquoi ?
Pour fêter notre victoire aujourd'hui.
Vous pensez que c'est important pour vos enfants d'assister à cela ?
Absolument, il faut absolument qu'ils voient tout ça pour qu'ils comprennent.
Ils
doivent vivre dorénavant dans un pays indépendant, libre.
Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, fer de lance artisans de cette révolution de velours. Un peu à l'écart, un vieux militaire en grande tenue bardée de médailles.
Comment vous appelez-vous ?
Karagil.
Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui ?
Excellent, on ne pourrait pas être mieux qu'aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans peut-être que j'attendais ce jour-là.
Alors maintenant, tout commence, hein. Ça ne va pas être facile.
Je n'ai pas peur des difficultés, parce que tout le peuple est là.
Vous pensiez vivre une journée pareille,
hein? Après. Non, je ne m'y attendais pas. Parce que le peuple arménien n'avait pas de leader. Mais Nicole est née et le peuple l'a suivi.
Alors en fait, c'est pas pour Nicole Pachignan que je suis descendue dans la rue, quoique je l'ai, moi que je l'ai toujours aimée et toujours respectée. C'est pour autre chose. Alors, en fait, c'est pour un système de valeurs, c'est pour un changement de valeurs dans le pays. Et c'est vrai que Nicole Pachignan a symbolisé la possibilité de ce changement de valeurs dans le pays. C'est donc une révolution de valeurs, de civilisation, civilisationnelle. Et autant que je me souvienne de ma vie de militant, c'est la première fois que je vois un mouvement qui repose sur des valeurs positives d'amour, de tolérance, de concorde.
Alors ça, c'était l'hymne de la révolution. C'est quoi le titre, hein, le titre de cette chanson?
Ça s'appelle, le titre c'est Karakatu Yeko.
Et cela veut dire?
Cela veut dire c'est la chanson de la citoyenne. Et Nicole Pachignan, il est l'auteur de sa parole. Ça signifie qu'on n'est pas seul, on veut aller avant, envers le futur. Et ce qui est important, c'est que les mains sont dans l'air, ce qui signifie que la révolution n'est pas violente. On a l'espoir et on va aller envers le futur pour changer quelque chose.
Et elle résonne cette allégresse auprès d'une jeunesse émerveillée d'elle-même, fière de montrer au monde qu'elle a réussi sa révolution.
Révolution d'amour plutôt.
Oui,
on dit que c'est une révolution d'amour, de paix, surtout de paix, parce que si vous étiez ici, tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles, étaient, tout le monde, on dansait, on chantait.
Oui. En même temps, c'était le protest contre notre régime.
Une ambition assez chaleureuse, oui. Il y avait ici.
Oui.
C'était plutôt un mouvement de jeunesse.
Oui, parce que ce sont surtout les gens qui n'avaient peur de perdre quelque chose.
Oui.
Parce que si notre parent travaille dans des entreprises où c'est le régime qui règne, qui contrôle tout ça, nous n'avons pas rien pour perdre. Alors, quand Serge Alexian a démissionné, j'ai téléphoné à ma mère et j'ai dit, ah, tu vois, 10 jours et nous avons fait tout ce que vous ne pouvez pas changer depuis 10 années. Alors... Et Nicole Pachignan a fait beaucoup de choses, on peut dire, parce que depuis 10 années, c'était lui qui a donné la possibilité de sentir que tu es un citoyen d'un pays et tu peux changer quelque chose dans ce pays.
Je dis personnellement, pour cette révolution, tous les gens qui sont sortis de la maison sont responsables. Ce n'est pas seulement Nicole Pachignan qui est responsable. On doit comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui. Oui, ce sont ces gens. C'était une révolution du peuple. Tout le monde dans le peuple arménien doit comprendre qu'il est responsable de cette révolution.
J'espère qu'on va voir les changements le plus vite possible. Nous aimons l'Arménie, alors on a beaucoup d'espoir pour lui. J'adore mon pays, je ne veux pas le quitter, je veux rester là et vivre ici.
Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis de France, d'Amérique, qui ont déjà dit qu'ils veulent revenir en Arménie, oui.
Une patrie libre, une terre bienheureuse dans cette chanson sur la cigogne qui parle d'exil et d'espoir du retour. Chanson entonnée le 7 mai au soir par le musicien Serge Tankian, venu des États-Unis soutenir Nicole Pachignan.
Qui dit « Maintenant le monde entier vous regarde comme un exemple de révolution réussie, pacifique, joyeuse. » Le monde nous a connus jusqu'ici à cause du génocide, de la guerre, du tremblement de terre précédemment. Et maintenant, tout d'un coup, on nous connaît pour autre chose.
Quand Pachignan a commencé ses actions, personne n'y croyait.
Zaren Aroutounian, responsable de la chaire de philologie française de l'Université d'État d'Yerevan.
La population était dans une apathie complète. Toute la population, je peux dire, tout le peuple arménien et la diaspora et le peuple qui vivait étaient tellement mécontents du gouvernement de l'ex-président Serge Sarkissian que ça s'était devenu une haine totale. Et une dépression totale en même temps, parce que la dépression se manifestait. Déjà, la jeunesse disait que voilà, nous allons quitter l'Arménie, nous allons terminer l'université, et nous allons chercher notre destin ailleurs, dans d'autres pays. Et presque la majorité de la population, je peux dire, a quitté l'Arménie. Et voilà, mais Pachignan, comme un miracle, a fait des choses incroyables. Une tactique inattendu, c'est-à-dire jusqu'ici, toutes les manifestations étaient éteintes par les forces de la police, d'une manière très grossière. Alors il a changé de tactique de ces manifestations. Ne restez pas, n'attaquez pas la police, les mains levées, et vous savez alors le reste, comment cela s'est passé. Alors c'était les jeunes, c'est la jeunesse de l'Arménie indépendante. C'est pas ma génération qui a tout vu, le mal et le bien. Mais c'est une autre génération, et cette génération était plus libre et moins effrayée que ma génération à moi. Moi, j'ai vu tout, et l'époque soviétique, et l'effondrement de l'Union soviétique, et le nouveau régime, et la guerre de Karabakh, tout, ma génération à moi. Mais cette jeunesse-là a été libérée de ces complexes. Moi, je pense que le succès de cette révolution de velours qu'on appellerait, c'était vraiment une révolution de velours.
Et alors aujourd'hui, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ?
Moi, maintenant, je pense que le grand succès, pour moi, c'est la révolution, si c'est la révolution, qui s'est passée dans la mentalité du peuple arménien. Il avait perdu complètement son espoir, il a retrouvé son espoir. C'est le grand succès. Et le deuxième, que la jeunesse, que le peuple a dit au gouvernement qui vont venir, que soyez prudents avec le peuple, vous êtes toujours responsables devant le peuple. C'est ça le grand succès. Parce que pendant 20 ans, on a essayé de changer quelque chose dans la République au moyen des élections, et on n'a pas pu, et vous savez l'histoire peut-être. Pour être un peu plus clair, imaginez-vous que vous êtes dans une prison, et vous sortez de cette prison. J'exagère un petit peu, mais j'ai cette impression, je suis sorti de la prison. Une grande prison, là où, pour pouvoir vous transmettre la joie que j'ai et la joie que domine en Arménie.
Une prison où il n'y avait pas vraiment de loi.
Une prison où il n'y a pas de loi. C'est le criminel qui était venu au pouvoir. Le criminel, 100%. Imaginez-vous alors la sortie de la prison de 20 ans. Quel bonheur!
On vous salue maintenant d'un bienvenue dans la nouvelle Arménie. Cette Arménie qui vient enfin de tourner une longue page de son histoire, estime Armen Bagdasarian, responsable du développement dans une agence de tourisme.
En fait, c'est la fin de l'ère soviétique en Arménie. C'est maintenant que c'est la fin de l'ère soviétique en Arménie. C'est la fin du KGB en Arménie. C'est la fin des apparatchiks soviétiques, des hauts fonctionnaires soviétiques, de l'ère soviétique en Arménie. C'est la fin de l'atmosphère de peur et de terreur donc, que ces derniers avaient créée pendant ces dernières années. C'est la fin des officiels ou des personnes qui sont proches des officiels et qui se sont fait remarquer par des actes criminels parfois, tout en restant impunis. Donc c'est la fin de l'impunité. C'est le début de la démocratie. C'est le début de la construction d'un État où les citoyens se sentent vraiment appartenir à ce pays, à cet État, où les citoyens sentent cet État leur appartenir.
L'espoir s'est levé d'un changement dans ce pays dont un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, avec un taux de chômage galopant, une dette immense, étouffée par la corruption. Mais à présent, commence une nouvelle vie. Nicole Pachignan l'a promu dès son discours d'investiture au Parlement.
La priorité du futur gouvernement, c'est donc de créer un climat de solidarité nationale en Arménie, en diaspora et en Artsakh. Les résultats des élections électorales ne seront plus fraudés. Il n'y aura plus de monopole économique artificiel. Il y aura une prééminence de la loi. La loi sera la même aussi bien que pour les sympathisants politiques que pour les opposants. Voilà le message le plus important et principal de la révolution arménienne. C'est la pierre angulaire sur laquelle sera construite la future Arménie.
Pour l'aider, il en appelle dans chaque discours à la diaspora. Et cette corruption que le nouveau Premier ministre entend éradiquer, c'est comme une hydre avec d'innombrables têtes. On peut en voir les signes, par exemple en se promenant tout simplement dans la ville que nous arpentons en compagnie d'Armen Bagdasarian.
À Erevan, donc, on peut pratiquement dire que différents quartiers de la ville ont été répartis entre différents oligarques. Les habitants de Erevan savent très bien, par exemple, à qui appartiennent tous les business dans tel ou tel quartier.
Ici même, là, par exemple, en face de nous.
C'est l'ancien ministère des Affaires étrangères, racheté par un Arménien d'Argentine, Eduardo Hernekian, et il avait un projet d'en faire un hôtel. Il a d'autres entreprises en Arménie, il faut dire que l'aéroport d'Erevan lui appartient aussi.
Donc le gouvernement, le parti au pouvoir jusqu'à présent, a un petit peu vendu comme ça le pays, ses bâtiments publics à certains de ses proches.
On pourrait le dire, oui. Enfin, c'est quelque chose qui s'est fait depuis une vingtaine d'années. Des bâtiments publics, des terrains ont été vendus à des gens proches des pouvoirs.
À quels autres bâtiments emblématiques peut-on songer à Erevan ?
Ah bah c'est le cas de l'ancien marché couvert, devenu centre de commerce, supermarché, racheté par un autre oligarque, député au Parlement. Il a dénaturé le bâtiment, l'intérieur du bâtiment. Et c'était un bâtiment qui représentait un certain intérêt, disons, historique et culturel pour la ville d'Erevan, parce que c'était donc l'ancien marché central de la ville, où les touristes, ils aimaient aller pour prendre des photos.
Et il datait de quelle période, ce marché ?
Il datait des années 1950. C'était représentatif de l'architecture de l'époque, mais avec des éléments arméniens très très forts. Et puis c'était l'unique endroit à Erevan où l'on pouvait voir ce que c'est qu'un marché, disons, oriental ou un marché arménien.
Si on arpentait Erevan, cet ancien ministère des Affaires étrangères, cet ancien marché,
oui.
Y a d'autres comme ça, lieux ?
En fait, ce qui s'est produit ces dernières années, pendant les deux dernières décennies surtout, c'est que l'aspect traditionnel de la ville a été dénaturé. Ils ont construit des immeubles, ils ont construit des hôtels, sans vraiment tenir compte, par exemple, de certaines règles. Le problème, dans certains endroits, à Erevan, c'est que, par exemple, quand une ambulance doit arriver dans la cour d'un immeuble ou d'une maison, eh bien, cela s'avère impossible parce qu'il y a tellement de bâtiments construits autour que donc, tous les passages sont bloqués. Il y a un incendie et que les pompiers doivent arriver, tous les passages sont bloqués parce qu'il y a vraiment beaucoup d'immeubles construits, disons, un peu partout. Voilà. Donc, c'est ça le problème. aucune règle d'urbanisation n'a jamais été respectée. Déjà, on n'avait pas beaucoup de choses de cette vieille ville parce que, bon, à l'époque soviétique, les autorités de l'Arménie soviétique à l'époque, ils avaient tout rasé pour construire des immeubles à la manière soviétique, malheureusement. Mais bon, cette architecture de la période dite stalinienne, elle s'inspirait aussi de l'architecture traditionnelle, ce qui était bien en fait. Parce que, bon, nos architectes, ils ont pu garder des motifs. Vous voyez ces éléments, ces motifs, voilà, par
au-dessus exemple. Des colonnes, oui,
au-dessus des colonnes, ces grenades, par exemple. Ça, c'est un motif traditionnel. Hein. On la retrouve, la grenade, on la retrouve dans l'architecture médiévale arménienne, sur les façades d'églises ou de chapelles. Donc, c'est quelque chose qui nous appartient. Par contre, je ne pourrais malheureusement pas dire la même chose pour les immeubles construits en face.
Comme cet hôtel.
Voilà, comme cet hôtel. C'est des blocs de béton. Voilà, sans vie, sans rien.
La corruption au quotidien, ce sont aussi ces passe-droits pour les puissants, cette justice aux ordres, ces pots de vin partout, police, hôpital, administration, douane, l'éducation n'y échappe pas, dénonce Anaïd Mesropian, professeur de français à l'université d'État d'Erevan.
C'est énorme, c'est inimaginable à quel point la corruption est importante en Arménie. Le seul moyen d'avoir des avantages, de bénéficier d'une réduction de bourse, de bénéficier d'un voyage à l'étranger, etc., c'était en passant par le Parti républicain. Il fallait être membre de ce parti pour avoir des bénéfices auxquels normalement doivent prétendre les bons étudiants. Ça a perverti énormément les esprits des étudiants. J'espère que cette nouvelle situation changera beaucoup de choses. Sinon, c'était vraiment une génération perdue que je voyais. Une génération qui ne pensait qu'à ses biens personnels, qui pensait les obtenir par des voies pas très correctes, pas très régulières. Ils avaient accepté les règles du jeu. Ils ne s'opposaient plus à cela. On paye pour tout avoir, hein, pour obtenir un diplôme, pour obtenir un permis de conduire.
C'est-à-dire ici à l'université, vous faites payer les étudiants pour leur donner un diplôme ?
Oui, alors qu'à l'époque de l'Union soviétique, les études étaient gratuites en Arménie. Maintenant, dans toutes les grandes écoles, y compris à l'université d'État, les études sont payantes. Et c'est cher par rapport au salaire arménien. Si quelqu'un touche un salaire équivalent à 100 ou 200 euros, et il est obligé de payer 1000 euros pour les frais d'inscription de son enfant, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ce frais d'inscription, c'est déjà une garantie d'obtenir le diplôme. Parce que comme l'université vit aux dépens de ces frais d'inscription, personne n'est refusé. Toutes les personnes qui sont en mesure de payer leurs études, ils obtiennent à terme leur diplôme.
Vous, par exemple, vous donnez leur diplôme à tous vos étudiants?
Oui. Alors que moi, j'étais très intransigeante à l'époque, j'étais très sévère. Maintenant, je dois transiger avec mes principes parce que c'est ça la règle. On les met dehors et le lendemain, c'est toi qui est mis dehors.
Et le secteur privé non plus n'est pas épargné par la corruption.
Nous sommes dans l'usine du groupe AMPG. Ici, nous imprimons toutes sortes d'étiquettes pour toutes les industries. Nous fabriquons des hologrammes, nous produisons des étiquettes de protection des marques, nous utilisons des technologies innovantes. Toute l'innovation est faite ici par notre département recherche et développement. Donc nous pouvons répondre aux besoins des gouvernements comme des entreprises. En ce moment, nous imprimons les passeports arméniens. Voici les machines qui servent à imprimer les vignettes fiscales. Ce sont des impressions très sensibles, de haute sécurité. On part de la matière première jusqu'au produit fini. Même les matériaux de base, nous les fabriquons nous-mêmes avec des technologies de métallisation sous vide. Mais on a peu d'activités en ce moment. J'espère que désormais l'économie arménienne va se développer et que l'on produira davantage. Actuellement, nous tournons à même pas 5% de nos capacités.
Ingénieur de formation, Albert Arroyon a fondé il y a tout juste 20 ans cette imprimerie haut de gamme dans les faubourgs de la capitale. Il se débat pour survivre en butte à ces monopoles accaparés par les oligarques, victimes des liens incestueux entre le monde politique et celui des affaires, de l'invention sans limite des douanes et de la police fiscale.
Corruption, of course. There is a lot of corruption.
La corruption, bien sûr qu'il y en a beaucoup. J'espère que maintenant, il n'y en aura plus, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monopoles et notre nouveau Premier ministre a dit que dorénavant, tout le monde pourra importer. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Alors justement, vous pourriez nous expliquer ce que sont ces monopoles ?
En fait, les monopoles, ça ne date pas d'hier. Ça fait plus de 20 ans que nous avons toutes sortes de monopoles. Le gouvernement a accordé à l'un le droit exclusif d'importer des fruits, à l'autre de l'acier, un troisième encore autre chose. Mais au bout du compte, peu de gens ont obtenu l'autorisation d'importer. Donc maintenant, si tout le monde peut importer, il y aura de la concurrence et cela fera baisser les prix. Si vous avez plus de 10 ou 20 personnes qui importent du pétrole, ils vont se battre sur chaque centime. En ce moment, seule une personne a le droit d'importer du pétrole et personne d'autre. Et c'est pareil pour tout. Tout ce qui peut rapporter des profits a fait l'objet d'un monopole. Et 90% de ceux qui tiennent ces monopoles sont des parlementaires ou ont des relations très étroites avec le gouvernement. Nous, si nous voulons importer, non seulement nous payons les taxes, mais en plus, la police fiscale décide combien nous allons payer en plus. Ils ne se basent pas sur la facture. Ils font un prix, on ne sait pas comment, ils le décident, et vous devez payer cette somme. Autre chose, quand vous importez des matières premières en Arménie, une fois que vous avez accompli toutes les formalités de douane, ils bloquent de nouveau la marchandise, chaque fois. C'est ça la corruption. Il faut se déplacer, il faut attendre, il faut payer, et au lieu de faire les formalités à la douane, de décharger et de charger la marchandise, vous allez perdre 3 jours, une semaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont inventé un système que j'appelle corruption. Ainsi, quand vous importez un appareil électronique, quel qu'il soit, que ce soit une imprimante à jet d'encre, un téléphone, une liseuse ou quoi que ce soit, non seulement vous faites toutes les formalités de douane, vous payez toutes les taxes, mais en plus, vous devez aller au ministère de la Défense leur demander l'autorisation. Vous devez aller au KGB leur demander une autorisation et pour toutes ces autorisations, vous payez encore ?
Et où va l'argent ?
Normalement, il devrait aller dans le budget de l'État, mais personne ne sait où il finit. Parce que la vie des gens ne s'améliore pas, nos routes ne sont pas meilleures, nos infrastructures, nos hôpitaux non plus. Il y a plus de 30% de pauvreté. Pas de travail. Pourquoi ? Seules quelques personnes ont le droit d'avoir un poste. Les autres luttent pour survivre.
Nicole Pachignan connaît l'ampleur de la tâche. Sans perdre de temps, il a annoncé la fin des monopoles, donné de nouvelles directives aux douanes. Il a remplacé les responsables des services de sécurité. Mais tout reste à construire. La tâche est immense, confie l'un de ses proches, Serge Varaxisérian.
C'est très important de changer non seulement les gens, mais surtout la mentalité des personnes qui travaillent dans le secteur public. C'est vraiment important, parce qu'on ne peut pas tous les renvoyer et les remplacer. On n'en a pas le capital humain. On va donc devoir regarder, au cas par cas, pour voir à quel point telle ou telle personne est corrompue. Si cette personne peut rester et se plier à nos règles, je pense que la plupart des gens vont rester. On va changer les règles tacites. Par exemple, quand on dit qu'on ne veut plus de corruption, ça fait 2-3 jours que la police ne prend plus de pots de vin. Du moins, ça a fortement réduit. Il en va de même pour les douanes. En fait, tout est lié à la politique. Si tu as la volonté politique, tu peux faire changer les choses. Déclarer qu'à partir de maintenant, le système judiciaire sera indépendant. C'est forcer les gens à accepter nos règles. Il y a des mécanismes pour ça. Par exemple, le Premier ministre a un département de surveillance qui était l'un des plus corrompus. Le dirigeant de cette agence savait bien que ce qui se passait était immoral. Mais au lieu d'aller voir le Premier ministre ou le Président pour dénoncer et changer les choses, il faisait du chantage et récupérait l'argent qu'il donnait ensuite directement au Président. C'est un mécanisme qui a existé pendant 20 ou 30 ans. Mais maintenant, ça va changer, c'est sûr.
Donc vous allez soit changer les gens, soit faire en sorte que les personnes obéissent aux nouvelles règles.
Oui. Encore une fois, on n'a pas le capital humain pour remplacer tout le monde. D'ailleurs, on ne veut pas changer tout le monde. Puisque la plupart des fonctionnaires suivaient simplement les ordres de leurs supérieurs. On ne peut pas reprocher aux gens d'avoir donné ou reçu des pots de vin. Je veux dire, c'est tout un système qui était en place. Ce sont les mentalités qu'on doit changer. Les gens doivent comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. On doit leur faire comprendre que l'on ne veut pas qu'ils acceptent des petits cadeaux. C'est toute une mentalité. Et d'ailleurs, sur le long terme, si on veut vraiment que ça change, ça doit venir du bas. Lorsque je dis du bas, et je veux insister là-dessus, cela viendra du système éducatif. On doit changer ce système éducatif, les écoles, la crèche, l'université. C'est ça le plus important.
Comment elle se manifeste, cette corruption, dans l'éducation, concrètement ?
Je vais vous donner un exemple très simple. Pour avoir un poste, la plupart des enseignants payent les directeurs. 5 000, 10 000 dollars, juste pour rentrer. C'est un problème immense. Et c'est pareil pour la police. Si tu veux être policier, il faut que tu donnes 5 000, 10 000 dollars à un supérieur pour qu'il t'offre du travail. Ensuite, c'est à ton tour de faire du chantage et de faire remonter le butin à ton supérieur en espérant qu'il t'en laisse. Puis ça remonte, jusqu'à ce que ça atterrisse dans une boîte noire. C'est cette boîte noire qui leur a servi pour récompenser les plus loyaux du système. Ça va s'arrêter. Ça a déjà commencé à s'arrêter. La boîte noire, ça n'existe plus.
S'il est fort de la confiance du peuple, Nicole Pachignan doit faire avec la réalité du pays. Ce manque de capital humain, ses mauvaises habitudes enracinées, un contexte politique défavorable. Il a brillamment réussi dans l'opposition, mais doit maintenant faire ses preuves aux commandes, alors que les gens qui l'entourent manquent cruellement de l'expérience politique dont leurs ennemis, eux, ne sont pas dépourvus. Cette nécessité de composer avec les forces en présence, Nicole Pachignan a dû l'expérimenter pour parvenir au pouvoir, explique Alexandre Iskandarian, directeur de l'Institut du Caucase.
The biggest supporter in parliament of Mr. Pachignan is Mr. Tsarukyan.
Le plus grand partisan de M. Pachignan au Parlement est M. Tsarukyan. C'est l'un des oligarques les plus importants d'Arménie, l'un des plus riches, sinon le plus riche. Il a son propre parti politique. Et il faisait partie du système déjà au temps de Serge Sarkissian. Il a des ambitions politiques et maintenant il soutient M. Pachignan parce que M. Pachignan a besoin de soutien au Parlement. Il n'a que 9 députés comme M. Tsarukyan en a 31. Donc pour gagner, il ne suffit pas de manifester contre, il faut aussi négocier à l'intérieur du système et il fait les deux. Some negotiations
inside the system, and he's doing both. It will be difficult. Avec un tel soutien, ce ne sera pas facile de lutter contre l'oligarchie, comme M. Pachignan a pourtant dit qu'il le ferait.
Les oligarques font partie de la réalité de ce pays. Il faut négocier avec eux pour accéder au pouvoir de façon légale, pas en prenant le Parlement avec la rue, mais légalement, en étant élu par les députés. Eh bien, sans les oligarques, c'est tout simplement impossible. Ce n'est pas juste une question d'argent. Si vous êtes légaliste, et il l'est, si vous avez des manifestations pacifiques, et c'est ce qu'il veut, si vous voulez faire tout cela légalement, vous devez vous appuyer sur des députés qui ont été élus il y a à peine un an. sur un Parlement contrôlé par le Parti républicain et les oligarques. Donc, vous devez faire avec eux, c'est une situation compliquée.
Est-ce un problème pour l'avenir ?
Tout est un problème pour l'avenir. C'est un processus. Il est clair que remplacer les gens n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste en changeant 10 ou 100 personnes au sommet que vous allez changer la situation de votre pays. Non. Vous devez changer de système. Vous devez travailler sur les problèmes. Vous devez continuer à travailler sur le développement économique, le développement social, le développement du système politique des partis. Actuellement, la population attend de voir ce que Pachignan va faire. Il y a de grandes attentes, ce qui n'est jamais très bon. On croit qu'on va se réveiller comme ça demain dans une petite Suisse parce que tout va changer et ce sera beau. C'est sûr que ce ne sera pas le cas. Donc il y aura une baisse de sa popularité qui est extrêmement élevée. Nous verrons bien. En général, après les révolutions, après un changement de pouvoir, les pays ont quelques problèmes.
Quand ils se réveillent le lendemain,
dans le même pays. Parce que la lutte contre la corruption, c'est un problème systémique. Ça va prendre des années, des décennies. Le développement économique est un problème systémique sur lequel il faudra travailler durant des décennies. Les monopoles dans l'économie, les liens entre le business et la politique sont des problèmes structurels, etc. etc. Vous ne pouvez pas le faire en un jour ou en un mois. Il vous faudra des années parce que vous avez la pauvreté, le chômage, l'émigration. Et l'Arménie n'est pas un pays si grand. Et elle est située dans un environnement particulier. Deux de nos frontières sont fermées, avec l'Azerbaïdjan et avec la Turquie. Nous avons besoin d'importantes forces armées. Donc, vous avez beaucoup de problèmes. Il va falloir travailler et ce qui est important, ça va être de voir de quelle personne Nicole Pachignan va s'entourer.
Arménie, les défis d'une révolution pacifique, un reportage de Marie-Pierre Véraud avec Annie Brault à la réalisation. Et vous entendez la chanson du citoyen sur des paroles de Nicole Pachignan, chanson qui est devenue en quelque sorte l'hymne de la révolution. Alors l'économiste Armand Sarian est l'invité de ce magazine. Armand Sarian, on est maintenant un mois après l'élection de Nicole Pachignan. Depuis, il a formé son gouvernement. Quel est le profil de son équipe ? Comment s'est-il entouré ?
Je crois que son équipe est assez conforme à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y aurait pas de vendetta, il a dit qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, mais que ce qu'il allait changer, c'était les mentalités et les principes. Donc, il est lui-même tenu par une situation politique, parce qu'il est Premier ministre, mais pour que son programme puisse passer, il est obligé de composer avec une Assemblée nationale dans laquelle les députés qui le soutiennent ne sont pas majoritaires. Donc il est obligé de composer avec une majorité. Donc voilà, ça c'est la difficulté de sa situation actuelle. Beaucoup de choses ont été dites dans le reportage, d'ailleurs tout a été dit.
Non, pas tout.
je pense qu'il faut... Il faut être conscient des difficultés. Les difficultés ne sont pas nouvelles. Elles existaient avant Pachignan. Elles étaient là tout le temps. Mais je crois qu'il faut rester vigilant tout en étant optimiste parce que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui a été initié, qui va au-delà de la personne de Pachignan. Vous avez vu que la société s'est vraiment libérée. Ça a été vraiment une libération psychologique, une révolution culturelle. Et cette révolution va avoir des ondes de choc qui seront très importantes.
Mais alors, vous l'évoquiez, le Parti républicain, effectivement, est encore une force politique très importante, très implantée. Enfin, c'est elle qui est la majorité à l'Assemblée. Est-ce que ce parti, quand même, compte tenu du choc qu'il vient de subir, va éventuellement s'ouvrir un petit peu, accepter les compromis, ou vous le voyez plutôt dans de la résistance au changement ?
Bah, il va lui-même être obligé de composer. Le leader du Parti républicain disent qu'ils sont passer d'un parti de pouvoir à un parti d'opposition, donc ils vont exercer leur rôle d'opposant, avec le double objectif, à la fois de composer avec Nicole Pachignan, et en même temps essayer de le déstabiliser, essayer de le discréditer, en montrant que son équipe n'est pas fiable, qu'ils n'ont pas d'expérience de pouvoir, qu'ils n'ont pas l'expérience de l'administration, et donc essayer de discréditer son programme.
Et cette absence d'expérience, vous pensez que c'est un réel handicap ?
Alors, pour compenser ce manque d'expérience, vous avez vu que le nouveau gouvernement, il y a des nouvelles têtes, mais qui se situent quand même dans la continuité, puisque les gens qui ont été nommés ministres sont souvent des gens qui viennent de l'appareil, mais qui sont des personnes qui ont accepté donc de faire partie du gouvernement de Pachignan et donc d'appliquer les principes de sa révolution qui est orientée contre la corruption.
Et voilà, justement, en fait, Pachignan, il dit « Je ne serai impliqué dans aucune affaire de corruption, je n'aurai aucun revenu non officiel, aucune propriété ou action. Et j'exigerai la même chose de chaque membre du gouvernement et de chaque fonctionnaire. »
Oui. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas de vendetta, mais tolérance zéro contre la corruption, parce qu'il a bien compris que c'est le problème prioritaire. C'est un problème qui a des implications énormes, la corruption. La corruption, elle est... qu'est-ce que c'est que la corruption ? C'est que quand on a un pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique, on peut le monnayer. Et donc, ce problème gangrène complètement la vie politique, économique et sociale de l'Arménie, avec des implications énormes. Et donc, la conséquence, c'est que on utilise la démocratie à des fins non démocratiques, parce qu'on peut pas contester un candidat lors d'élections si jamais les élections sont truquées, si jamais en économie il y a un monopole avec quelqu'un qui, un oligarque qui s'arroge le droit d'importer, d'exporter et d'exclure tous les autres, et bon, on ne peut pas le contester non plus. Donc on a une société qui se déprécie, qui se dévalorise, qui devient dépressive. Hein, le mot avait été utilisé dans le cadre du reportage. Et donc les oligarques protègent leurs intérêts avec les moyens de l'État. Et ça, c'est absolument inconcevable. Donc je crois que l'objectif de Nicole Pachignan, c'est de rétablir l'État de droit et la prééminence du droit
Marie-Pierre
et de l'intérêt
Véro.
Général.
Alors, on en a entendu beaucoup des étudiants hein, dans le reportage, parce que les jeunes ont été présentés un peu comme le fer de lance de ce mouvement. Est-ce que c'est une génération qui est derrière Nicole Pachignan, et est-ce que cet élan peut durer, selon vous? Ils ont de grandes attentes, ils sont très enthousiastes. Est-ce que cet enthousiasme peut durer?
L'avenir nous le dira, j'espère qu'il durera, nous verrons. En tout cas, cette révolution ne ressemble absolument pas aux précédentes. Il n'y a pas eu de révolution précédemment, mais il y a eu d'autres mouvements de contestation qui étaient... très différent.
Il y a beaucoup de gens qui avaient déjà été dans la rue contre la vie chère,
contre l'augmentation des prix de l'électricité, contre
transport.
Voilà, contre les transports. Il y a eu les manifestations aussi lors de la première élection de Serge Sarkissian
en 2008.
En 2008,
qui avait été réprimé
très
avec des morts,
avec 10 morts absolument. Donc cette révolution ne ressemble pas du tout aux précédentes. C'est une révolution culturelle, une révolution à mon avis qui montre qu'on a tourné une page, l'expression a été dite, on a tourné la page de l'héritage soviétique, parce que même dans cette phase post-soviétique, il y avait malgré tout des réminiscences, il y avait des restes du régime soviétique. La corruption en est un, il n'y a pas que les ex-républiques qui connaissent la corruption, il y en a beaucoup d'endroits dans le monde, mais c'était quand même une spécificité, et là il y a une page qui se tourne, et une page qui se tourne avec une génération qui n'a pas connu l'Union soviétique, une génération qui est tournée vers le monde, qui utilise Internet, qui s'habille comme les jeunes à Paris ou ailleurs. Et donc, le rôle des jeunes a été capital, le rôle des femmes a été capital également, dans un pays qui est plutôt machiste. Donc, psychologiquement, une page se tourne et Pachignan a été un très habile tacticien, parce qu'il a réussi à opposer à la violence du pouvoir la non-violence de sa révolution, hein, qui a désarmé le pouvoir en place, et qui a conduit à ce que l'inattendu advienne, c'est-à-dire qu'on imagine toujours difficilement comment est-ce qu'un régime autoritaire peut tomber, parce qu'on ne l'imagine pas tomber, c'était la même chose pour l'Union soviétique, et là il s'est passé la même chose. Le pouvoir est tombé vite, tombé rapidement, de manière inattendue. On s'est même interrogé, d'ailleurs, pour savoir pourquoi il est tombé si facilement. Il y avait même des rumeurs qui couraient disant que Nicole Pachignan et Serge Sarkissian, finalement... tout ça rentre un peu dans cette mentalité du complot, mais bon, on se rend bien compte que...
tout simplement un terreau favorable, parce qu'on voit que c'est quand même un pays qui est confronté depuis longtemps à une hémorragie démographique. Oui. Les gens s'en vont parce qu'ils avaient le sentiment qu'il n'y avait plus de perspective dans ce pays. Oui. Je crois qu'en 10 ans, 300 000 Arméniens ont quitté le pays. Alors, est-ce que avec cette révolution, vous pensez que ces changements vont donner envie aux jeunes qui sont en Arménie de rester dans le pays pour essayer d'y construire quelque chose de nouveau, ça peut vraiment créer cet élan-là?
Ça, c'est la grande espérance. Moi, je suis persuadé que oui. Et l'effet de la corruption, c'est qu'on chasse les meilleurs également. Les meilleurs s'en vont parce qu'ils n'ont plus de place. On leur donne plus la place qu'ils méritent et ils s'en vont. Et tous ces gens qui sont partis pour ces raisons, bah j'espère qu'ils vont revenir. Vous avez vu que dans les discours de Nicole Pachignan, il anticipe que dans quelques années, il y ait 4,5 millions d'Arméniens. Parce que
ils sont moins de 3 millions aujourd'hui.
Ils sont moins de 3 millions et l'Arménie a besoin de bras, a besoin de cerveaux. Et tous ces bras et ces cerveaux sont partis. Alors dans ce qu'on appelle la diaspora proche, pour ceux qui vivent en Arménie, en Ukraine, en Russie ou même aux États-Unis, je crois que le premier appel est à destination de ces gens-là.
Alors la diaspora, est-ce qu'elle peut effectivement être en appui? Est-ce qu'elle peut financer? Est-ce qu'elle peut apporter aussi des forces humaines, tout simplement, pour redresser le pays?
Mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est un appel direct qui a été fait. Je crois qu'il n'y a jamais eu un appel aussi appuyé à la diaspora pendant un mouvement. Avec des représentants de la diaspora. La diaspora était toujours impliquée, mais bon, on l'a laissée de côté. Là, elle était en première ligne. Nicole Pachignan, il faisait tout le temps référence. Ça fait partie des forces vives de la nation. On veut vraiment créer une nation, réunir la nation arménienne autour de l'Arménie. Et je pense que ça aura des implications politiques, économiques. Beaucoup d'Arméniens, d'ailleurs, vont en Arménie. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Ouais.
Oui, vous dites des difficultés ou un enjeu économique, parce que un des enjeux de taille, c'est la lutte contre la pauvreté. On l'a entendu, qui est quand même extrêmement présente, près d'un tiers de la population qui vivrait dans la pauvreté. Est-ce que Nicole Pachignan, qui prétend lutter contre les inégalités, est-ce qu'il en a les moyens? Ça va prendre du temps. Cela.
Ça va prendre du temps. Je pense que tout à l'heure on parlait des effets de déception, parce que après une phase de révolution et d'euphorie, bah, y a toujours un atterrissage qui est difficile, donc il y en aura certainement un. Mais je pense que les gens ne sont pas naïfs au point de penser que du jour au lendemain la situation va changer. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des signes et que malgré tout, dans l'application de la politique, même si tout ne change pas du jour au lendemain, on sente que le changement est en marche, hein, puisque le slogan « la révolution, c'était la marche », bah, il faut que le changement soit en marche et il faut que les gens le sentent. Et Nicole Pachignan disait d'ailleurs « si jamais moi je réussis pas mon programme, eh bien je resterai pas une seconde de plus ». Et il a dit, il a rendu le pouvoir aux gens et aux électeurs et il partira. Donc ça, déjà, c'est un espoir énorme. La corruption va prendre du temps,
mais là, la lutte contre les inégalités, par exemple, parce que le pays est quand même très endetté, il peut pas non plus sortir de l'argent, oui, comme ça de son chapeau.
Mais la corruption signifie qu'il y a des effets de captation. C'est-à-dire que on parlait de la politique fiscale, on parlait que la corruption utilise les moyens de l'État, donc il n'y a plus de redistribution des moyens de l'État. La fiscalité, ça sert à redistribuer, cette redistribution est en panne. Donc si jamais, ne serait-ce que par le mécanisme fiscal s'il y a une attractivité de l'Arménie qui augmente, qui s'améliore grâce au changement des lois, si la corruption et cette tolérance zéro advient, il sera long d'éradiquer complètement la corruption, mais je pense qu'on peut en voir un début encourageant assez vite.
Mais alors certains craignent qu'avec la lutte contre les oligarques, il y ait aussi fuite de capitaux, par exemple.
C'est pas exclu. Vous savez, moi, je pense que déjà beaucoup d'oligarques ont déjà mis leurs capitaux hors d'Arménie. Donc ils sont déjà hors d'Arménie. Par contre, ce qui peut être négocié, c'est, s'ils le souhaitent, c'est de rapatrier ces capitaux en Arménie pour qu'ils soient investis. Voilà. Donc je pense pas que la situation soit plus dramatique ou plus difficile que ce qu'elle était. On est dans une reconfiguration, il y a eu beaucoup de promesses, et il y a une crainte que ces promesses ne soient pas tenues. Alors, je disais, il faut être vigilant, mais être optimiste quand même.
Marie-Pierre Véraud.
Il y a un autre coup aussi pour l'économie arménienne, c'est celui de la guerre avec l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Ça plombe quand même le budget. C'est un contexte difficile pour un jeune pays comme celui-là que d'être en guerre déjà avec un de ses voisins.
Oui, bien sûr que c'est difficile parce que économiquement, ça signifie que les budgets militaires sont importants. Donc c'est autant de moyens en moins qui sont consacrés à la lutte contre les inégalités ou à d'autres projets plus économiques et sociaux. Il y a le blocus de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et la Turquie qui a un coût. Déjà, au début des années 2000, le coût est évalué à plusieurs points de PIB. Donc effectivement, c'est un contexte difficile. C'est pour ça qu'il faut avancer également sur ce dossier-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées durant ces 10 dernières années. C'est vrai.
Et du côté de la Turquie, il peut y avoir éventuellement une ouverture et des relations économiques susceptibles de se développer, ou est-ce que là, ça reste encore compliqué?
Pour le moment, ça reste encore compliqué, mais j'ai entendu Nicole Pachignan qui disait qu'il était prêt à engager des discussions avec la Turquie sans aucune condition préalable, comme ce qu'avait dit Levon Petrosyan en son temps. Donc je crois que Nicole Pachignan est prêt. Maintenant, nous verrons ce qui se passera.
Et puis il a l'air d'être assez habile, c'est-à-dire que vis-à-vis de la Russie par exemple, dont l'Arménie est très dépendante, il tient un discours très modéré, on reste alliés, rien ne change.
Oui, rien ne change parce que il fallait pas, et je crois d'ailleurs qu'on est dans un contexte très différent, que l'Arménie ne soit ni la Géorgie ni l'Ukraine, donc il y a aucun ressentiment anti-russe en Arménie. Il peut y avoir des griefs, mais je crois que Nicole Pachignan souhaitait que ce soit une affaire intérieure, que cette affaire intérieure n'aurait aucune implication sur les engagements internationaux de l'Arménie, notamment vis-à-vis de la Russie. Donc il n'y avait aucune, ce n'est pas une révolution qui était hostile, ce n'est pas une révolution de couleur, puisqu'on avait évoqué ce risque au début. Donc là aussi, il a désamorcé assez habilement ce risque. Et d'ailleurs, il a rencontré Poutine très rapidement après sa prise de fonction.
Donc malgré tous les obstacles, vous avez l'air quand même assez optimiste. Effectivement, vous pensez que la volonté politique peut effectivement vraiment changer complètement la donne en Arménie?
Je pense que la situation est très compliquée parce que on est maintenant à l'étape de l'application, c'est-à-dire il faut appliquer les mesures qui seront prises, donc ça va être compliqué, mais je pense que il faut pas être naïf, donc il faut rester vigilant, mais avoir l'espérance du changement, parce que je pense qu'on vient de loin.
Avec un enthousiasme populaire qui, pour l'instant, en tout cas, semble durer.
Oui, souhaitons que ça continue.
Merci beaucoup, Armand Sarian. C'était le magazine de la rédaction. Arménie, les défis d'une révolution pacifique. Un reportage de Marie-Pierre Véraud. À la réalisation, Annie Bro et Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Ce magazine est également en ligne sur franceculture.fr avec un dossier multimédia. C'était une rediffusion de l'émission du 8 juin 2018.